franceinter.fr. Au commencement, il y avait un homme. Eh bien non. Au commencement, il n'y a jamais un homme, ni une femme d'ailleurs. Ni même un homme et une femme. Pas plus qu'il n'y eut un premier jour et une première nuit. Ce sont des multitudes d'ancêtres dont le nom s'est perdu, de plus en plus nombreux et incertains à mesure qu'on remonte, si bien qu'on en arrive à ce constat déroutant pour les grands gosses que nous sommes, dans ce domaine, il n'y a pas de commencement. Seules les vies ont un commencement, et encore. La vie dans l'absolu n'a ni début ni fin, seuls les maillons de sa chaîne apparaissent à notre regard, se déploient sous nos yeux, se soustraient à notre vue, sans que la continuité de la chaîne soit vraiment affectée par ces jeux de cache-cache. Seules les idées ont un commencement, et encore. Quand des lecteurs me demandent « D'où vous est venue telle ou telle idée ?», ils s'attendent sans doute à une réponse simple et claire, mais bien malin qui peut dire d'où nous viennent les idées. Alors je me borne à raconter dans quelles circonstances l'idée m'est venue. Voilà, je regardais par la fenêtre du RERB, quand soudain, je me suis dit que ce roman galicien devait être raconté par une maison. Le plus souvent, mes lecteurs s'en satisfont. Et c'est donc ce que je ferai ici, dans la mesure du possible.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Et pourtant, cette histoire a bien un commencement. Et ce commencement est une pensée vague, comme beaucoup de ces pensées qui sont des sortes de rêveries. Mais si, quelque temps plus tard, cette pensée vague a produit, dans le silence, des ramifications, des bourgeons inattendus, c'est qu'il s'agit bien d'une branche à laquelle la raconteuse d'histoire va pouvoir s'accrocher. Diane Meur est amoureuse de l'Allemagne et en parle la langue. Elle se promène dans son XVIIIe siècle avec aisance. Ainsi avait-elle noté dans un coin de sa mémoire que le célèbre livre « Qu'est-ce que les Lumières ?» avait été rédigé par Emmanuel Kant et Moses Mendelssohn, lequel était le grand-père de Félix, qui n'a pourtant jamais été son compositeur préféré. Et un jour, à Berlin, elle réalise qu'il y a eu entre ces deux célébrités, le philosophe des Lumières et le musicien romantique, un chaînon ignoré. Abraham, banquier faute de mieux, musicien contrarié et converti au protestantisme. L'idée de départ était donc de s'intéresser à cet oublié de l'histoire. Mais Diane Meur le sait, lorsqu'une idée commence ainsi à bourgeonner en elle, la démesure, la mégalomanie, dit-elle en plaisantant à demi, ne sont jamais loin. Dans Les Vivants et les Ombres, paru en 2007, elle racontait un siècle de l'histoire de la Galicie, pays dont jusque-là elle ignorait tout, vu à travers une maison, 700 pages. Dans Les Villes de la Plaine, en 2011, elle donnait vie à une cité antique, décrivant précisément ses mythes fondateurs, ses rituels et ses lois complexes. 400 pages. Et avec les Mendelssohn, soit 765 descendants de Moses et de ses 10 enfants, répartis sur 4 continents et 7 générations, elle a bien failli s'engloutir, être carrément dévorée par l'étrange et monstrueux arbre généalogique qu'elle a bricolé sur la table de son salon, perdant pied dans les destins des uns et des autres, lesquels conservés, lesquels délaissés. Au bout de 2 années d'obsession anxiogène, elle a compris que son sujet, c'était sa quête elle-même. En septembre dernier paraissait donc La carte des Mendelssohn chez Sabine Vespizer, comme tous ses précédents livres. 500 pages, bourrées d'histoires passionnantes, de drôles d'anecdotes, de bribes de journal intime, de scènes imaginaires, de portraits attachants. Et en creux, celui de l'auteur, érudite, gourmande et allègre. Diane Meur, qui rentre tout juste des assises internationales du roman À la Villa Gilet, est ce soir l'invitée de l'humeur vagabonde.
Soccer team running up and down the hill. chicken pies. Sexy mummy, small guitars. Sugar daddy, lullabies. Sleepy Yuki, the perfect place to be. We won't care about the winter. We won't care what the neighbors say. We'll sing all the time. I can't wait to see the silver.
Ce fragile projet auquel je n'étais même pas sûre de tenir, ce petit filet d'eau qui se refusait à grossir depuis 5 ou 6 ans, s'est soudain élargi en rivière, puis en torrent. Non seulement la vie et l'œuvre de Moses avaient tout pour me fasciner, à commencer par le fait que, tel mon scribe des villes de la plaine, il avait fait scandale en initiant une nouvelle traduction de la loi, mais l'ensemble de son entourage et de sa descendance, le Mendelssohn complexe, comme je l'appellerai bientôt, recoupait toutes sortes de thèmes qui m'importaient ou m'avaient autrefois importé. Il y avait des banquiers et des artistes, des francs-maçons et des pasteurs, des religieuses et des juristes, le fondateur de l'AGFA et un metteur en scène de la République de Weimar, qui émigrait à Paris y monter l'opéra de Katsu. Sans cesse, mon torrent en crue arraché sur la rive pour les mêler à son cours, des objets qui m'étaient depuis longtemps chers ou du moins familiers. D'ailleurs, ce n'était plus un torrent, mais déjà un fleuve. Un fleuve assez large pour que d'une rive, on n'en aperçoive plus l'autre. Quel rapport, en effet, entre le mouvement franquiste et l'opéra de Katsu? Quel rapport entre une Ursuline belge et un planteur de thé à Ceylan? Sinon qu'ils descendaient de la même source, du même petit ruisseau sorti de terre dans la cour non pavée d'une maison de Dessau. Et j'ai compris que ce fleuve, en train de se répandre en un immense delta, était gros de toute ma nostalgie de Berlin, où j'avais voulu vivre une autre vie sans jamais réussir à être vraiment là. De toutes mes occasions manquées, de toutes mes affections perdues, de tout ce qu'il m'était jamais arrivé de laisser derrière moi ou d'échouer à retenir. De tout ce qui passe, s'enfuit, se dilue ou se disperse sur la face du monde. Et cela fait beaucoup.
Bonsoir Diane Meur.
Bonsoir.
On vient d'entendre un court extrait de votre livre « La carte des Mendelssohn » et on se rend bien compte que, au départ, ce livre « Petit ruisselet d'eau » est devenu assez rapidement un fleuve tumultueux. Et du coup, je comprends mieux que vous ayez choisi pour le lexique des assises du roman, le mot qu'on demande à chaque auteur qui va être présent pendant les assises internationales à la Villa Gilet, que vous ayez choisi le mot « hubris ». Parce que, dans cette passion dévorante que nécessite l'hubris, on reconnaît votre façon de travailler. Au départ, vous êtes quelqu'un de calme, et puis, dès que vous avez une idée, vous devenez littéralement possédé.
Absolument. Je suis quelqu'un de calme et, je veux dire, dans ma jeunesse, enfin, quand j'étais lycéenne, j'avais beaucoup de mal à faire des longues copies. Je faisais toujours trop court. Et voilà, donc là, je pense que l'entrée dans la fiction a provoqué en moi une sorte de basculement. Je suis devenue explosive dans l'imagination, dans la prolificité peut-être, parce que même mon premier roman était aussi assez long. Et comment dire, je pense que c'est une certaine forme d'immensité, de démesure, d'énormité, dirais-je même, qui m'enthousiasme, qui me donne des ailes et qui provoque une sorte de d'autogénération de la fiction, c'est-à-dire que les chapitres ou les ici il s'agit moins de chapitres que comment dire de germination, d'emboîtement. Voilà, il y a une sorte de dynamique qui provient du fait même que je sais que l'horizon est très vaste et que je vais pouvoir aller loin et sur le long terme. Voilà comment j'expliquerai un peu, même si tout n'est pas toujours explicable dans ce genre de possession. Je
pense ce dernier livre, La carte de Mendelssohn, il est très... Enfin, au départ, il aurait pu être très différent de vos romans précédents, puisque les livres avant, c'était vraiment du roman. Et là, vous avez fini par faire un roman à partir d'une quête très, très ancré dans le réel. Qu'est-ce qu'il y a de plus réel que la vie d'une famille? Mais la fiction est quelque chose qui s'impose au bout du compte, toujours.
Oui, d'ailleurs, j'ai longtemps, enfin, en tout cas pendant plusieurs mois, j'étais très embarrassée par ce problème. Je me disais, mais comment faire fiction ici? Comment faire roman à partir de ces matériaux qui me passionnent? Parce que je trouvais que tout cet ensemble, cette évolution, comme ça, où on voit défiler toute l'histoire de l'Europe sur deux, trois siècles, et qui m'évoquait beaucoup d'images ou de sons. D'ailleurs, comme on a entendu dans la lecture, ça m'a beaucoup plu parce que ça m'évoquait un petit peu ce que tout ça m'inspire, quoi. J'ai envie d'y mettre des images, de raccrocher ça à tel lead, à telle chanson. J'ai un peu perdu le fil. Comme dans mon livre, d'ailleurs,
Oui.
Vous pouvez me rappeler le...
Ben moi aussi, parce que vous écoute, du coup je perds ma question, mais ça fait rien.
Mais c'est pas grave.
Parce qu'au départ, en fait, c'est quand même l'amour de l'Allemagne, l'amour de Berlin, l'amour de la langue allemande qui a défini ce sujet d'étude. Parce que Moses, au fond, bon, tout le monde connaît Emmanuel Kant et personne ne s'intéresse tellement à ce Moses. Or, c'est un personnage très fascinant.
Oui, tout à fait. Puis j'en reviens, voilà, je retrouve la question. J'étais dans une enquête, c'est vraiment documentaire, et j'étais très inquiète de la tournure que ça allait prendre. J'ai dit, mais bon sang, comment je vais y arriver? Comment mettre tout ça ensemble de façon que ça devienne réellement un roman? Et je pense que au bout du compte, c'est ce que j'ai réussi à faire. Et cet embarras devenait tellement intense et complexe et articulé que finalement, il est entré dans le roman. Il a été le début du roman, parce que finalement, dès le premier chapitre, je fais état de cette difficulté à trouver le bout du fil qui va me permettre de remonter toute la plotte. Et comme par ailleurs, il me semblait que c'était aussi une entrée en matière assez amusante. Finalement, j'ai suivi ce fil-là. Je me suis dit, bon, qu'à cela ne tienne, ce sera le roman de mon enquête. Mais il faudrait aussi que ce soit le roman des Mendelssohn. Donc, à mesure que je raconte, c'est que mes embarras, mes apories, finalement, j'arrive à la raconter, cette histoire. Mais il y a quelque chose de ludique dans le fait de dire, je n'y arriverai pas. Et pourtant,
Mais en fait, Diane Meur, c'est vous la fiction, c'est vous qui êtes porteuse de fiction. C'est-à-dire que dans cette façon de raconter des vies réelles de gens réels, c'est vous qui amenez la fiction, comme si, en fait, elle passait par vous.
Oui, absolument, c'est le paradoxe, en fait. La seule chose qui soit vraiment fictive dans cette histoire, c'est mon histoire à moi. Ce qui peut paraître... Effectivement, j'avais très à cœur de ne pas écrire une sorte de, enfin voilà, de romancer des vies. C'est pas du tout ce que j'avais envie de faire. En plus, j'ai des réticences presque morales par rapport à l'idée de faire ça, l'idée de mettre dans la bouche de personnages réels qui ont vécu, dont on connaît les œuvres, de leur mettre dans la bouche des dialogues de mon cru me paraissait un peu soit saugrenu ou même au pire un peu choquante. Et donc, tout ce qui est réellement inventé, soit ce sont quand même des scènes fantastiques qui mettent en scène les personnages en question, mais là, je pense que le lecteur comprend que ça n'a jamais pu se passer de cette façon-là, soit effectivement, c'est le jeu sur l'autobiographique, sur l'autofiction, et je me suis aperçue que finalement, travailler sur sa propre vie impliquait beaucoup plus de travail, de bricolage, de remise en forme qu'une fiction, comment dire... pur sucre, quoi.
Mais je le disais au départ, Diane Meur, vous êtes philologue, ce qui est quelque chose qui impressionne énormément, parce que c'est vrai, dès qu'on se met à étudier la langue, les civilisations à travers les langues anciennes, on imagine que, après ces études, après les premiers travaux professionnels, comme si l'écriture du roman avait pris une revanche, comme si en fait, au départ, vous vous étiez imposé un carcan universitaire, même si vous aimiez ce que vous faisiez, mais qu'il y avait en vous, quelque part, ce bouillonnement incroyable qu'on voit bien à l'œuvre à travers vos livres, et que vous aviez, pendant un certain temps, laissé de côté.
Alors, je ne sais pas si je poserais ça dans ces termes, mais le fait qu'il y a dans mon travail de création, parce que je suis un métier de traductrice par ailleurs, une sorte de jeu ou de va-et-vient perpétuel entre la contrainte et la liberté débridée, quoi. Je crois que j'ai besoin de m'imposer des contraintes, souvent narratives, hein, dans le livre, l'autre livre dont il est à question, enfin, Les Vivants et les Ombres, c'est quand même une contrainte narrative très très forte que de faire raconter un siècle d'histoire par une maison, c'est-à-dire un personnage non humain et qui ne se, peut pas se déplacer. Et en fait, c'était une façon de faire pousser la fiction, quoi, de la pousser dans ses retranchements et hop, c'est comme si elle sortait par les fenêtres et par d'ailleurs tous les orifices de ce vaste édifice dont la mémoire était beaucoup plus ancienne que n'importe quel être humain. Et ici, dans la carte des Mendelssohn, c'était aussi un carcan que de respecter les textes. En fait, parfois c'est un montage de citations que je, même dans les passages, on dit, ah, un dialogue, elle est en train de faire du roman. Mais oui, ce dialogue, mais est fait avec des bouts de citations qui figuraient dans des lettres. Et d'ailleurs, je suis allée jusqu'à mettre des appels de notes, ce qui est un peu transgressif dans un roman. Et le fait que cette contrainte particulièrement forte ici, enfin, respecter voilà, la citation, respecter le document, respecter la pensée d'autrui, parce que Moses Mendelssohn est quand même un penseur très articulé, avec une œuvre qui s'est étendue sur pas mal de décennies. Enfin bon, il n'est pas mort si âgé, mais il a quand même beaucoup écrit, il s'est beaucoup exprimé. Voilà, donc il y avait une contrainte de ne pas déformer sa pensée, de ne pas déformer la vérité historique, la manière dont les faits s'étaient enchaînés. Et par moments, il y a des échappées, des fenêtres, à nouveau des fenêtres qui s'ouvrent sur de la pure fiction. Quand je me mets à rêver, par exemple, mes sources sont des sources, donc des sources écrites. Mais vous savez, même sur une source écrite, quand vous lisez une lettre de Goethe, voilà, début 19e, mais ça peut vous mettre des images, vous faire imaginer tout un arrière-plan, ou alors ce CD-ROM, ce fameux CD-ROM généalogique dont je me servais en permanence pour les besoins de ce travail, qui était quand même quelque chose d'assez sec, quoi, avec des données, des dates de naissance, de mort, de conversion, une petite notice biographique. Mais parfois, rien que dans ces données-là, je me prenais à imaginer tout un roman sur des personnages où, pour le coup, on ne savait quasiment plus rien. Et donc, ah oui, tiens, lui, alors il s'est converti au catholicisme, mais seulement 3 ans après leur mariage. Et qu'est-ce qui a pu se passer pendant ces 3 années? Je suis sûre qu'ils se disputaient tous les matins. Et donc, j'en tire comme ça 2 pages de... Là, c'est vraiment du roman. Hein. Je ne connais absolument pas ces gens. Je ne sais pas du tout à quoi ils ressemblaient. Et c'est... Mais je ne le donne pas pour du roman. Comme c'est... À chaque instant, je parle en mon nom propre, je raconte qu'effectivement, ce serait quelque chose que j'aurais pu... là, j'aurais pu écrire un roman, mais je pense que le lecteur peut s'amuser aussi à voir les tentations qui nous traversent quand on pense être comme ça sur des rails et que, hop, à la moindre occasion, on sort dans les taillis.
Alors, cette carte des Mendelssohn, Diane Meur, vous dites que, au fond, c'est le troisième volet d'un triptyque après Les Vivants et les Ombres et Les Villes de la Plaine. Un triptyque que vous avez vu après coup, en disant, bah oui, j'ai écrit 3 romans sur des grands corps. Alors, c'est étrange, parce que quand on dit grand corps, on pense grand corps de l'État, donc c'est pas du tout ça.
Non, pas du tout.
Mais j'imagine que c'était pas votre projet en commençant. C'est que, ensuite, en voyant, vous avez trouvé une logique qui réunit ces 3 derniers livres.
En fait, j'ai commencé à y penser en écrivant Les Villes de la Plaine. Je me suis dit, tiens, je suis en train de faire un diptyque. Pour moi, c'était clair, quoi. Il y avait le roman précédent était vraiment un roman du bâtiment, avec sa mémoire, la mémoire de ses... des générations qui s'y sont succédées. Et Les Villes de la Plaine, c'était vraiment un roman de la ville comme corps qui se pense homogène, un corps qui était clos par des fortifications. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail. Et là, dans la carte de Mendelssohn, c'est devenu clair à nouveau, assez vite. Je me suis dit, voilà, c'est le troisième volet. J'ai pris un corps peut-être encore plus vaste, qui est celui de... la famille, et encore, parce qu'on pousse tellement loin l'étude de la famille que on en arrive au...
Ça n'est pas encore homogène.
Non, et c'est encore un peu infini, parce que voilà, ces générations se succèdent, vont toujours se perpétuer, parce que des descendants Mendelssohn, mais j'en ai rencontré, je leur ai serré la main, et entre le moment où j'ai commencé mon livre et le moment où j'ai terminé, d'autres sont nés. Enfin, c'était un moment, je parle de massif corallien en pleine expansion. Et si on remonte dans le temps, c'est la même chose. Vous avez de plus en plus d'ascendants. Et donc c'était oui un nouveau cas de figure, peut-être encore plus démesuré, celui du corps vivant, quoi, et du corps dont les limites sont discutables, parce que au bout d'un moment le mot famille perd son sens, et je pense qu'on en arrive à retrouver un bout du maillage de l'humanité tout entière. En tout cas, c'est un peu ma perspective. Au bout de quelques chapitres, je me dis, je crois que ça va plutôt être une... Du moins dans le projet, ça va devenir une sorte d'histoire du monde, quoi. Si j'avais pu le faire.
En tout cas, le lecteur comprend très vite que vous avez pu être un peu épuisé.
Je commence à être fatiguée, vous savez. Quand j'y pense, il y a de quoi. Voilà 2 ans que je m'embarquais dans cette expédition avec en soute quelques concertos de Félix Mendelssohn et une certitude... Moses Mendelssohn, c'était celui qui avait coécrit l'essai « Qu'est-ce que les Lumières ?» avec Emmanuel Kant. Entre-temps, j'ai accumulé 1,975 kg de documents papier, enregistré 76 onglets, écumé 5 ou 6 bibliothèques, rempli 4 cahiers A5 de mes hiéroglyphes, massacré 6 bristoles de 65 par 55 cm et 2 de 70 par 55 cm. 2 rouleaux de colle fixe, 2 rouleaux de colle repositionnables et un gros feutre gris qui ne m'appartient pas. J'ai traversé tant d'époques que ma coque, comme une antique épave, doit être prise dans une gangue de coquillages et de végétaux marins. J'ai longé 1000 côtes, rencontré tour à tour des rois, des empereurs, des manufacturiers, des médecins de quarantaine, des tisserands, des esclaves, des reines, des cantatrices, des conseillères privées, des religieuses, des ramassures de tourbes, de jeunes mères au foyer. Jamais je n'atteindrai dans mon récit un point où je pourrais me dire « me voilà arrivé ». Il fallait que je renonce à arriver quelque part et envisage plutôt de revenir en arrière. Pas de revenir à l'origine, ah non. J'en avais terminé avec les origines, la source des fleuves, les choses ou les gens dont tout était venu. Mais revenir à la jonction, trouver l'axe de symétrie, le point exact où ma vie avait commencé de se refléter dans ce roman à venir. Ou le roman de projeter sur ma vie son ombre avant-courrière. Ce point avait à voir avec des eaux, lieu de reflet par excellence. Des eaux dormantes, sans courant ni marée, qui n'étaient ni la Baltique, ni le Danube, ni la Sprée, ni la Havel, vue du vapeur Gustave, ou du restaurant bateau Vieil Amour au large du Grunewald. Les étangs du Pont d'Oie, je brûlais, mais c'était trop récent. J'entrevoyais quelque chose de plus reculé, sans être vraiment lointain.
Diane Meur, cet extrait commence par « je commençais à être très fatiguée », mais je me suis demandé si parfois vous aviez perdu de vue la jubilation, parce que là on la sent tout le temps dans ce livre, on sent cette espèce de bonheur de se laisser aussi déborder. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez un peu désespéré devant l'ampleur de la tâche, ou est-ce que toujours il y avait une voix en vous qui disait que vous saviez que c'était ça qu'il fallait faire ?
Oui, la voix était là, mais vous savez, on n'entend pas toujours très bien les voix. Il y avait des moments de véritable panique où j'avais l'impression d'être en plein chantier, sans plus la moindre idée de ce que j'allais faire de tout ça. Je parle plutôt de la phase avant le commencement de l'écriture, quand je me retrouve avec toutes ces étiquettes et ces ciseaux, ces bouts de papier là sur la table de mon salon, je me dis mais ça ne ressemble vraiment pas à un roman, ça ressemble plutôt à je ne sais pas quelle œuvre d'art brut et je ne vois absolument pas à quoi ça va servir. Donc il y avait vraiment des moments de panique ou alors de désorientation. Comme c'est quand même une histoire assez complexe, avec beaucoup de branches, des branches familiales, beaucoup de thèmes. Enfin voilà, les personnages sont tellement divers socialement, politiquement, religieusement, que ça me raccrochait à des thèmes d'une diversité un peu inquiétante, parce qu'il faut quand même tenir les fils à un moment. Il y avait des moments un peu de mais de découragement total. Je ne peux pas y arriver, c'est inhumain. C'est... Alors la jubilation est attachée à l'écriture, en fait. Parce que ces moments de panne, c'était pas ceux d'écriture, c'était... Enfin voilà, si. En fait, oui, mais c'est compliqué parce que ce roman était un peu un roman en spirale. Peu à peu, je raconte comment j'écris le roman, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a toujours un petit problème de décalage. Donc, le moment où je racontais mes pires embarras, en fait, à ce moment-là, je ne ressentais plus cet embarras. Je l'avais dépassé. Donc, évidemment, vous pouvez mieux exprimer la jubilation quand vous savez que vous êtes presque tiré d'affaire. Mais il y avait toujours un jeu assez amusant entre ces deux niveaux. Ça a peut-être l'air d'être présent. Je donne peut-être l'impression de décrire les choses au moment où elles se passent, mais à part dans le journal de Berlin où vraiment c'est du sur les vifs. La plupart du temps, ça se situait quand même un an plus tard. Et donc, il y a un jeu qui m'amusait fort, quoi, sur ces plans temporels qui venaient. Et en plus, il y avait le plan temporel de l'histoire des Mendelssohn elle-même, qui parfois était reculée d'un siècle ou deux, ou de 20 ans, simplement. Mais voilà, c'était. C'est pour ça que le thème de l'eau, il me semble qu'on l'a entendu dans les extraits lus, le thème de l'eau, avec ce qu'elle peut avoir de mouvant, d'ondoyant et de. Avec les reflets, vous savez, à la surface, ça me paraissait, ça revient assez souvent, parce qu'il y a quelque chose de cet ordre dans l'évocation du temps. C'est quelque chose qui, voilà, les courants, les bras, les eaux qui se réunissent, qui se séparent. Enfin, pour moi, c'est vraiment aussi une image du, enfin, très traditionnelle d'ailleurs, de l'écoulement des siècles ou des années pour nous à notre échelle.
The thrill is gone. The thrill is gone. I can see it in your eyes. I can feel it in your sighs. Feel your touch and thank you.
Cette besogne répétitive se révèle exténuante et j'ai compris qu'il fallait me ménager. Par exemple, en coupant le son du CD-ROM, les mélodies sans parole de Félix Mendelssohn finissaient par me taper sur les nerfs, à se remettre en marche chaque fois que je relançais le disque. Et même sans musique, c'est une tâche qu'il faut savoir judicieusement fragmenter. Y passer une journée entière est dangereux, je l'ai appris à mes dépens. Mes enfants, en rentrant de l'école, me trouvaient hagarde, les paupières clignotantes, dans un état de surchauffe qui me rappelait le joueur d'échecs de Zweig. Je m'arrête désormais en début d'après-midi, et surtout j'intercale dans la semaine un ou deux jours où je sors lire en bibliothèque la biographie de Félix Mendelssohn par Larry Todd, pour étoffer encore ma chronologie. Malgré ces précautions, j'observe en moi d'inquiétants effets secondaires. Non seulement la tâche m'épuise, mais elle me mine. Elle me fait peur, comme si je m'adonnais à quelque chose de morbide et de malsain. Pourquoi, grand Dieu ? Il ne s'agit que d'un arbre généalogique et dans l'absolu, il est plutôt réjouissant qu'un philosophe célèbre, un homme intéressant et sympathique, ait laissé sur terre des centaines de descendants. Pourtant, c'est manifeste, un air mauvais souffle chez nous dès que je ressors la carte. Dans mon journal, je note des impressions étrangement négatives. Démon, pharaonique, mauvais pour la santé, je joue avec le feu, vertige. Ils ont tous les mêmes prénoms. Trop d'enfants, un parent, un travail pour des mormons. On parle beaucoup des mormons en ce moment, à cause des élections américaines. Les étiquettes se décollent, sentiment de la vanité de toute chose. Froid dans le dos. Ne plus y toucher pendant quelques jours. Sabine Vespizer, à qui j'ai envoyé une photo de mon work in progress, n'est pas du tout inquiète, elle. C'est dingue, on dirait une carte IGN ou un relevé de fouilles archéologiques. À quand le vernissage ? Si elle savait dans quel état me met ce relevé de fouilles, si elle savait que je l'appelle en privé le monstre ou même le tableau de chasse, parce que ces morts rangés dans l'ordre me font penser parfois à un alignement de cerfs, de sangliers et de lièvres, un soir de Saint-Hubert.
Diane Meur, j'avoue qu'en lisant cette partie à la fois terrifiante et très drôle de votre livre, où vous racontez la confection laborieuse de cette immense carte des Mendelssohn, un arbre généalogique qui envahissait votre salon, en fait, j'ai beaucoup pensé à Sigourney Weaver et occupée par son alien, parce que, au fond, cette carte, elle était vous. Elle vous ressemblait, elle était issue de vous et en même temps elle vous dévorait pas mal.
Oui, oui, elle me rendait clairement malade, quoi, au sens propre. C'est-à-dire, je me sentais pas bien. Et il y a cette impression chaque fois que je la déballe, que je la montre, que quelque chose de très glauque commence à se répandre dans l'atmosphère.
C'est curieux parce qu'un de vos amis a dit qu'elle vous ressemblait. Avec
oui.
vous racontez, oui, vous dites minutie et puérilité, formalisation à outrance et bricolage au petit pied.
Ouais, c'est vrai que l'autodérision est un élément assez assez présent dans ce livre et je pense que c'est aussi une forme de jubilation. C'est peut-être une façon de faire passer son propre enthousiasme. Enfin, moi, cette quête m'a complètement passionnée, enthousiasmée. Bah, parfois, un petit peu, il faut se rappeler à l'ordre soi-même en disant, bon, mais écoute, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Mais alors, j'avoue que la confection de la carte, ça, c'était autre chose. Je ne peux pas parler de jubilation. C'était extrêmement éprouvant. Et il y avait la question du sens. À quoi c'est utile? À quoi ça... Parce qu'au début, je pensais faire une sorte d'aide-mémoire, mais n'importe quelle personne raisonnable, en comprenant que ça allait prendre 5 ou 6 semaines, aurait dû m'arrêter tout de suite. Et là, non, il faut que je continue, que j'aille toujours plus loin, que je résolve des problèmes de géométrie pour que tout ça soit parfaitement cohérent. Et en fait, bon,
en fait,
ça a été utile.
C'est comme si vous vous dressiez vous-même un territoire pour ensuite pouvoir l'arpenter.
Absolument, parce qu'en fait, donc ça a précédé l'écriture, hein. À partir du moment où je me suis lancée dans les premiers chapitres, grâce peut-être à ce travail de cartographie familiale, je me suis très vite représenté ma démarche comme un voyage, quoi. Ce serait un récit de voyage. Voilà, j'avais raconté à la première personne mes déplacements, mes sauts de puce, mes retours en arrière et mes explorations de quelque chose qui serait de l'ordre justement du territoire spatial. Et à la fin, quand je termine le livre, effectivement, je me sens dans l'état d'esprit de celui qui a fait le tour du monde à bord d'une frégate et qui chose presque inespérée, revient à bon port. Quoi. Il y avait vraiment cette sensation d'un espace. Et c'est vrai qu'on parcourt tellement de... Il y a toutes ces vies multiples, toute cette densité historique qui est là derrière, qui nous évoque à chacun. Non, parce que là, différentes lectures peuvent être assez subjectives. Certains lecteurs sont plus attirés par tes aspects que par d'autres. Et finalement, on sent comme ça tout cet univers qui vrombit comme une ruche. Et on a l'impression, ouais, vraiment de... Moi, j'avais cette impression-là et apparemment, c'est communicatif. J'ai beaucoup de retours sur ce thème-là.
Mais alors, Diane Meur, en même temps, il y a dû avoir le choix terrible d'en abandonner quelques-uns, beaucoup même, évidemment sur le bord de la route, parce que c'était impossible de raconter tout.
Très honnêtement, ça n'a jamais été mon projet, parce que ça aurait été un tout autre roman. Un roman de l'exhaustivité, de la multiplicité absolue. Bon, et puis j'aurais pris sans doute encore beaucoup plus de temps pour récolter tous ces documents. Non, en fait, ce que je voulais, c'est par une sorte d'artifice presque. Quand j'emploie les métaphores de la forêt, de l'océan, le lecteur me croit. Mais il me croit sur parole. Je vais évidemment pas parcourir entièrement toutes ces générations, ni aller voir dans le détail toutes ces 765 vies. Parce qu'en fait, ce n'était plus du tout mon optique. Moi, j'avais envie que quand même on sente la pulsation, quoi, qu'on sente de manière presque charnelle ces existences. Donc, bien sûr, il fallait choisir. Il y avait des choix qui m'étaient suggérés ou presque imposés par le fait que, bon, c'est une figure incontournable. J'allais pas ne pas parler du philosophe des Lumières, Moses Mendelssohn. C'est dans la mesure où j'étudie toute sa descendance, ni je pouvais pas sauter à pieds joints par-dessus Félix Mendelssohn et sa sœur Fanny. Mais bon, après, dans la mesure où c'était un récit de voyage, enfin, c'était mon propre voyage dans ce territoire-là, après tout, un voyage, voilà. Parfois, on prend telle route parce que ça se présente comme ça, parce que de toute façon, de l'autre côté, c'est enneigé, on ne pourra pas passer. Vous voyez, le hasard joue, les rencontres, les lectures, mais aussi les accidents biographiques qui surviennent au même moment et qui font que brusquement, on va se lancer. Donc, je me suis dit, bon, après tout, comme il ne s'agit pas d'être exhaustif, je vais me laisser aller dans la direction qui... Voilà, je vais me laisser faire, quoi. Je vais me laisser partir à la dérive dans le courant. Et il y a des choix qui sont parfaitement subjectifs. Par exemple, ces fameuses Ursulines qui m'intéressent depuis le début et que je pourchasse jusqu'à savoir à peu près toute sa vie, sans que ce soit vraiment un personnage qui a plus d'importance qu'un autre. Voilà, c'est parce qu'il se trouvait qu'elle était morte dans un couvent belge et que je suis belge et que je me dis, voilà, c'est... Mais quel couvent? Où ça? Quand? Comment? Qu'a-t-elle fait là-bas? Il y a d'autres histoires où c'est plutôt des affinités un peu idéologiques, politiques, qui faisaient que je m'intéressais à tel exilé là, qui avait parcouru tout l'Empire ottoman pendant plusieurs années avant de mourir de manière absolument absurde du typhus pendant la guerre de Crimée. Enfin bon, c'était trop beau. J'avais l'impression que c'était un roman qu'on m'offrait sur un plateau et... Les choix ne sont pas justifiables et je pense qu'ils n'ont pas vraiment à l'être.
Mais ce qu'il y a aussi d'infiniment touchant, et ça on s'en rend compte en refermant le livre, Diane Meur, c'est que ça raconte quelque chose de nous, enfin du monde, de comment aussi survivre dans les temps de guerre ou dans les temps de disette. Et ce qui s'est passé d'ailleurs pour les Mendelssohn en Allemagne, c'est qu'ils ont réapparu après avoir fait partie des éradiqués pendant le passage des nazis. Tout avait été démoli, dispersé, et tout est revenu parce que voilà, on peut tuer les corps, mais on ne peut pas tuer les idées. Il y a quelque chose de comme ça qui reste.
Oui, mais tout cet aspect de résurgence, des moments d'oubli, puis des réapparitions, finalement, c'était aussi un autre fil rouge de ce livre qui est quand même sur comment les traces de nos existences humaines perdurent, quoi. Même si elles paraissent occultées pendant une certaine période, ça, il va toujours rester quelque chose. Il restera un exemplaire de l'édition qu'on pensait avoir entièrement détruite. Il restera un témoin qui va pouvoir parler. Et finalement, ça a beau s'étaler sur 3 siècles, donc on ne cesse de voir passer des gens, mourir, être remplacés par d'autres générations. Finalement, on a l'impression que rien ne meurt jamais, pour reprendre une phrase d'un autre livre. Il y a une sorte de perpétuelle renaissance et de... C'est ça que je trouvais très beau dans cette histoire, mais on pourrait dire la même chose du monde humain dans son ensemble, je trouve.
En tout cas, on voit bien que s'il s'appelle ce livre « La carte des Mendelssohn », c'est justement parce qu'il y a ce besoin de dessiner, en fait, de dessiner des histoires. avant de les écrire, de les dessiner, de leur donner un pays qui est celui que vous habitez probablement, Diane Meur. C'est un attachement aussi au terme de la carte.
Mais j'avoue que mon imagination est très spatiale, voire géographique. J'ai vraiment besoin d'un terrain bien défini. Alors ça peut être à l'échelle d'un pays ou alors d'une petite propriété ou d'un petit état. Enfin, peu importe, mais les images, les scènes ne me viennent pas si je ne me représente pas un lieu. Alors là, je ne sais pas très bien d'où ça vient. Ça pourrait d'ailleurs être un... Je sais pas, des lieux mentaux, des lieux de la mémoire qui se remplissent de peu à peu de personnages. Mais si je n'ai pas cet espace que je ressens visuellement et presque haptiquement, le roman ne naît pas. Il ne se passe rien, quoi. Ça me paraît creux. Je n'y crois pas. Et donc, d'où le besoin de effectivement cartographier. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de dépeindre, il fallait aussi que j'aie des repères précis, des représentations, des formalisations. Quoi. Il y avait tout cet aspect de... C'est très compliqué, finalement, un arbre généalogique, une famille, surtout que si après, il y a des mariages entre descendants. Enfin, c'est très compliqué de se représenter ça dans l'esprit. Et je crois que n'importe qui, dans la même situation, a le réflexe de prendre un crayon et de se faire un schéma. Quoi. C'est... Pour comprendre comment les choses fonctionnent dans tout rhizome, on a besoin de mettre ça sur du papier, en tout cas sur une surface, pour y voir clair. Et en fait, là, c'est de cette opération elle-même qu'est née la forme du roman.
Alors justement, notre reporter Vinciane Lomonier, qui a lu votre livre, a rebondi sur ce thème de la carte et elle est allée trouver deux femmes qui ont réalisé un livre étonnant qui devrait vous plaire. Elles s'appellent Aude de Tocqueville et Karine de Ring-Froger et elles ont imaginé toutes les deux un atlas des cités perdues. Et elles se sont mises sur la trace de 40 cités bien réelles, mais qui ont aujourd'hui disparu. Alors, il y a Massada, encore Pripyat, près de Tchernobyl. Et chacune de ces villes abandonnées a eu un destin inattendu, soit englouti par les eaux, soit sous la lave d'un volcan, soit désertée après une catastrophe. Et dans cet atlas, c'est la disparition qui hante les cartes. Et tout le travail est de faire émerger des villes fantômes dans une géographie engloutie. On les écoute.
Angkor, Cambodge, Babylone, Irak,
Antinoé, Égypte,
Bam, Iran,
Carthage, Tunisie,
Fatehpur-Sikri,
Épicuène,
Inde,
Argentine,
Hatusa,
Gagnon,
Turquie,
Canada,
Chemila, Algérie, Pompéi,
Kotasgoup,
Namibie, Prora, Allemagne,
Kayakor,
Pripyat,
Épicuène,
Ukraine,
Argentine,
Cesena, Espagne,
Vilcabamba,
Pérou, Varosha, Chypre. J'ai commencé d'abord par faire la sélection des villes, par écrire les textes. Et après, on se posait la question de savoir comment on allait illustrer ces villes. On aurait pu l'illustrer par des photos satellites ou par des photos. Et c'est vrai que cette idée de créer des cartes rêvées était beaucoup moins restrictive et que ça laissait au lecteur le soin de rêver bien davantage que si c'était que des simples photos.
Rien qu'à regarder le map-monde, les cartes géographiques, on rêve déjà, ne serait-ce que de les regarder. Puisqu'on est dans le fantasme du voyage, tout est un peu permis. Donc on est vraiment dans l'idée d'esthétisme lié au rêve. Pour les illustrateurs, c'est quand même un plaisir d'imagination et d'autorisation, même si le cadre de la cartographie a une autorité.
Alors ces cités perdues, elles ont différents profils, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont mortes-nées, d'autres très éphémères, d'autres qui ont été complètement rayées de la carte par un vote, notamment au Canada. Il y en a qui ont été englouties aussi, ça c'était le cas en Chine.
Dans le cas de Shishen, en 1959, les Chinois ont décidé de construire un barrage et pour construire un barrage, il fallait créer un lac artificiel. Ils ont englouti deux villes qui dataient de 2000 ans avant Jésus-Christ à peu près. Et ces villes ont vraiment disparu de l'imaginaire des gens. Et c'est vraiment que dans les années 2000, quand le gouvernement local a voulu créer un centre touristique autour du lac, que des plongeurs ont redécouvert ces vestiges qui étaient restés pendant quelques 60 ans complètement intacts.
Bon, il se trouve que c'est en Chine et que c'est dans une zone justement où il y a beaucoup de confluents, de fleuves, de rivières. Donc ça, le parti pris graphique a été de mettre en valeur cette notion. Donc on est dans des contrastes de bleu, de vert, très cartographiés justement.
Et donc ici, vous avez dessiné une partie des ruines ?
J'ai repris les ruines, et d'abord manuellement, qu'on ait cette notion d'époque. Je n'ai trouvé que des images de cités englouties. Donc, l'idée a été de placer juste la ville avec l'échelle de ce bâtiment qui est enfoui et quasiment disparu. D'ailleurs, il se confond dans le vert de la cartographie.
Quand on crée des cartes de cités perdues, on a sur son bureau des photos, des représentations des ruines, des anciennes cartes.
Gros travail iconographique de recherche. La photo, parfois, est quasiment impossible à trouver. Donc, je pense notamment à un qui m'a laissé un souvenir, puisque Gagnon, au Canada, n'existe plus. Et que pour trouver les images, j'ai dû trouver sur YouTube une vidéo d'un ancien habitant enfant qui avait fait tout un documentaire personnel. On s'appuyait sur l'idée d'être très coloré et de s'appuyer sur les fameuses affiches Air France des années 50, mais ça a duré toute une époque. De grands affichistes ont travaillé au service d'Air France, même des artistes comme Cocteau, Mathieu ou même Bassarelli plus tard. Justement, on était au début des voyages de l'aviation, autrefois encore réservés à une certaine élite, donc ces cartographies et ces affiches appuyaient cet imaginaire du voyage.
Palestrina.
Île d'Ashima, Japon.
Colespucta.
Banak, États-Unis.
Norvège.
Kadishan, Russie.
Carthage, Tunisie.
Babylone, Irak.
Alors, il y a une ville aussi intéressante, c'est Centralia, aux États-Unis. C'est la ville qui brûle depuis plusieurs années, depuis 50 ans.
L'histoire de Centralia est incroyable. C'est dans les années 60, des gens ont fait brûler des déchets dans un cimetière. Ils ne se sont pas rendus compte que le feu avait pris sous le sol, parce que c'était une ancienne ville aussi minière, donc il y avait des galeries souterraines. Et quelques temps après avoir fait brûler ce feu, les habitants ont vu se créer des fissures et s'échapper de la fumée de ces fissures. Ils ont continué à vivre là pendant quelques années, et puis il y a eu un enfant qui a failli mourir en tombant dans une crevasse, et là le gouvernement local a décidé d'évacuer la ville. Et depuis, et on est quand même en 2016, il y a cet incendie souterrain qui continue, parce que dans ces galeries, il y a du carbone sous la terre et qui n'est pas prêt de s'éteindre, puisque les prédictions disent qu'il en faut pour 200 ans avant d'éteindre cet incendie souterrain. C'est complètement fou.
Les images étaient cinématographiques. Donc moi, j'ai juste joué dans cette illustration avec l'idée de la fumée. Là, la représentation est moins... peut-être historique comme certaines ruines. Donc là, la fumée prend le dessus puisque c'est une ville en fumée.
Il ne reste qu'une église d'ailleurs. Et chaque année, les anciens habitants de Centralia viennent suivre la messe.
Quand on se plonge dans ces cités perdues, dans ces cartographies comme ça fantômes, est-ce qu'on est un peu enquêteur ?
Complètement. C'est fou ce qu'on peut lire à travers une ville abandonnée. Hein. Il y a l'effet miroir, elles sont comme nous, elles naissent, elles grandissent, elles meurent. Il y a cette nostalgie aussi. Qu'est-ce qu'on retrouve de nous dans ces passés de pierre, d'histoire, d'écriture, enfin. Et il faut dire que cet atlas des cités perdues n'est pas du tout un guide touristique. C'est vraiment un livre fait pour faire rêver aussi bien dans la cartographie que, j'espère, dans l'écriture. Moi, ce qui m'a étonnée en écrivant, c'était qu'il reste toujours une trace, une vie. Il y a toujours de la vie dans ces villes disparues. Ça a été au fil de mon écriture. J'ai été très étonnée de ça. Comme si une ville ne pouvait pas mourir complètement.
L'Atlas des cités perdues, évoqué par Vinciane Lemonnier dans son reportage, est paru aux éditions Artaud. Les textes sont de Aude de Tocqueville et les illustrations de Karine Dering-Froger. Diane Meur, vous voyez que, en fait, les cartes, ça fait rêver. Vous aussi, vous êtes très sensible.
Ah oui, je peux passer des heures devant une carte à me gorger de nom propre ou justement à imaginer des itinéraires. Et alors, ce qui m'a beaucoup parlé dans ce qu'on vient d'entendre, c'était la dimension souterraine. Parce que quand on a l'esprit un peu géographique, on peut l'avoir aussi un peu géologique. Enfin, tout ce qui est sous nos pieds, les strates de passé qui s'empilent, est vraiment quelque chose qui, d'un point de vue romanesque, me parle beaucoup.
Est-ce que là, on a parlé de la carte des Mandelson, elle est déjà sortie depuis septembre, même si vous continuez à parcourir la France, j'imagine, pour en parler, mais vous êtes déjà en chantier sur un autre projet qui vous fait rêver ?
Non, à vrai dire, je crois que je ne suis pas sortie de ce livre, dans la mesure où il continue à s'accroître. Alors, je ne parle pas de l'objet du livre, mais le matériau continue à s'accroître. Il y a des nouveaux descendants qui se signalent à mon attention. Je continue à étoffer la chronologie des Mendelssohn, parce que je ne peux pas m'en empêcher. Et c'est une véritable aventure. C'est plus qu'un livre que j'écris. C'était vraiment.
Donc vous êtes reparti encore pour pas mal d'années.
Mais non, accumuler, je pense que ça va prendre fin,
accumuler du matériau par simple intérêt personnel, alors.
Non, mais je pense que ça ne va pas être un incendie qui perdurera pendant 50 ans, comme l'histoire de la ville qu'on a entendue. Mais c'est parfois difficile de faire le deuil d'un univers, quoi, de dire bon, maintenant c'est terminé, maintenant j'ai clos l'affaire. Je me laisse encore quelques semaines.
Celui-ci est plus difficile à quitter que les précédents.
Oui. Enfin, les vivants et les ombres aussi, c'était difficile de s'en retirer. Je ne pourrais pas expliquer pourquoi.
Et là, vous étiez donc aux Assises internationales du roman, à la Villa Gilet. Vous avez participé à une table ronde sur le thème de la légende. C'est aussi quelque chose qui vous fait rêver, les légendes.
J'étais un petit peu déroutée par le thème, mais c'est bien quand on est un peu déroutée par le thème. On est obligé de réfléchir et de s'interroger. Et la table ronde a été très féconde dans la mesure où je me suis découvert un goût inavoué ou refoulé pour la légende que je dissimulais soigneusement et qui en fait réapparaissait par le biais de ces scènes fantastiques, par exemple, dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui, je crois qu'il y a une sorte de truc que j'assume pas complètement.
Mais c'est incroyable le nombre de choses qui étaient refoulées et qui sortent comme ça tout d'un coup. Vous n'aurez pas assez d'une vie pour les écluser toutes, j'ai l'impression, Diane.
Oh, je ne sais pas, mais... Bon, c'est vrai que là, il s'agissait de quelque chose qui bouillonne en dessous de la surface du réalisme. Donc, les choses qui bouillonnent en dessous de la surface, j'avoue que c'est un grand thème pour moi.
Eh bien, alors, bon bouillonnement, chère Diane Meur. Je rappelle que La Carte des Mendelssohn, comme tous les livres précédents, sont édités chez Sabine Vespizer. Merci à vous d'être venue ce soir. Au revoir. Merci.